Cathy le Mendès, Le perroquet de Gérard de Nerval. Tu reviendras, monsieur, à Jean Lorrain. Tout récemment, vous rappeliez un conte du merveilleux Banville, le conte où parle le fatidique perroquet symbole de la maison des Bauches. Dans cette page de rêve, mon cher poète, il y a une histoire vraie, qui arriva au délicieux et douloureux Gérard de Nerval. Elle nous fut dite à Banville et moi par Charles Asselineau, grand ami de Gérard Labruni. Et la voici, moins émerveillante que le conte, mais plus proche de l'abominable vérité. Les bras ballants, la tête lourde, longtemps, longtemps, il avait rôdé autour de la table, dans la chambre en désordre, où les deux fenêtres, presque aveuglées de brouillard, n'avaient, comme les yeux malades, qu'une lueur plaintive et terne, et laissaient dans les coins des reculs d'ombre furtifs qui prennent des formes, douteux, inquiétants, qu'il vaut mieux ne pas regarder. De même que la mi-obscurité rouillait le cuivre de ses appliques, délustrait les faïences, éteignait les dorures à la corniche du bahut, mettait des housses de crêpe au satin fleuri des chaises, empoussiérait toute chose d'une mélancolie de deuil, la langueur large de l'ennui l'envahissait ténébreusement, lui faisant l'esprit veule, lui rendant pesant le cœur, décourageant ses rêves, énervant son vouloir. Lire, travailler, il n'avait pas pu. Il avait laissé tomber le volume et la plume avant d'avoir tourné la seconde page sans avoir écrit la fin du premier vers. Pourtant, lorsque la chauve-souris du spleen ne lui collait pas ses ailes flasques aux tempes, Gérard était une âme jeune, verte, alerte et viril, enthousiaste, admiratrice et créatrice. Ce jour-là, comme trop souvent hélas, elle s'abandonnait avec la mollesse pendante d'un aérostat dégonflé. Il rôdait autour de la table, encore balançant pesamment la tête. Vitalité émasculée, pareil au vol déchu d'un oiseau mort, ou semblable à un vieil arc détendu qui traîne à terre. Il se redressa, endossa un paletot, sortit. Il ira chez elle. La chère jeune femme qu'il avait toujours consolée, ranimée, exaltée, aurait bientôt fait avec sa douceur de sœur et sa tendresse de maîtresse et sa grâce inspiratrice de béatrice de lui rendre l'espoir, la vie à la fois et la foi. Est-ce que rien n'est morose? Ou ses yeux lumineux sourient? Est-ce que son haleine se ressusciterait par le baiser aux lèvres froides des morts? Le tintement léger de sa patronne ne réveille-t-il pas sa pensée, comme le cri de l'alouette était sans celle où se rallume le matin? Puis, si pure et si fraîche, et dirait-on, tout en fleurs, quand vient la saison humide et grise, les pâles mises poitrinaires, paix pour les pays de soleil d'or. Gérard faisait comme elle. Son cœur, malade de l'automne, allait au printemps. Dans la rue, c'était déjà l'ombre, avant la nuit. Une ombre laide, reflet gris d'un ciel bourbeux, des ténèbres de brume qui n'ont ni les étoiles ni les croisées vives du soir. Et la mélancolie en lui s'en obscurcissait. Bien qu'il eût hâte d'arriver, il marchait lentement avec des défaillances d'animal éreinté qui, vague ou perdu, ne cherche même pas son chemin. Parmi le brouillard égoutté en une pluie presque chaude, il se sentait mouillé comme d'une sueur de fièvre lente qui le pénétrait, l'amollissait, l'alanguissait encore, lui mettait des paresses dans le sang et vous fondait ses résistances dernières dans une tiédeur dissolvante. Sous ses pieds, la boue était noire, avec quelquefois une épaisseur grosse, grasse d'ordure brusquement glissante. L'œil fixe, il considérait cette fange sans dégoût, avec je ne sais quelle acceptation vaguement consciente d'une immonde fraternité. Il y reconnaissait la bassesse et comme la couleur de sa croupissante inertie. Il marchait sur elle, et il l'avait en lui. Elle lui montait le long du corps, y entrait, s'infiltrait dans ses os, s'insinuait dans ses veines, devenait sa moelle, son cœur, sa cervelle. Il croyait aussi qu'elle suintait de lui et que c'était sur son être répandu qu'il glissait entre les pavés. Il était arrivé enfin. C'était la porte, la chère porte. Il n'avait qu'à entrer, mais il n'entrait pas. Il la regardait, cette porte, d'un air morne, vide, nul. Il avait, dans sa déchéance, abdiqué jusqu'à la volonté du relèvement, dans sa perte jusqu'au désir du salut. L'amour de vivre était mort. Il ne pouvait même plus concevoir l'espérance de renaître, tant ce qu'il avait eu de l'homme s'était évanoui dans la nonchalance ignominieuse du rien-être. Alors, pourtant, à cause de cette lâcheté suprême, un mépris de lui-même lui vint, une nausée monta de sa poitrine à ses lèvres, et il se sentait la bouche si amère qu'il croyait avoir mâché son cœur. Mais il n'entrait point. Une fille passa, lourde et grasse, rouge de gros fards, puante de musc, traînant de plis de satin des cassures d'emploi dans un frémissement bruyant d'étoffe et de boue. Il la suivit, car le goût de l'ordure triomphe lorsque défaille l'ambition de l'amour, et l'ennui s'accouple au mal. Quand ils se trouvèrent, après avoir monté 3 étages et suivi un très long couloir dans une chambre obscure qui devait être une antichambre, il entendit le tatotement sur un meuble des 2 mains de la fille qui cherchait sans doute le chandelier ou les allumettes. Il s'appuyait à la porte refermée, ne bougeait pas, était là, voilà tout. Mais une voix se mit à dire dans l'ombre, « Bonjour, monsieur, bonjour, tu es venu, tu es venu, monsieur, bonjour, monsieur, bonjour. » Il eut peur, tant cette voix qui n'était pas, qui certainement ne pouvait pas être celle de la fille, ressemblait au râle lamentable de quelqu'un qu'on étrangle. Elle criait, glapissait, se déchirait, sanglotait en une plainte sourde, éclatait en un gémissement aigu. Voix que l'on ne se donnerait pas d'entendre sortir de la pierre fendue d'un sépulcre. Terrible funeste, mais avec quelque chose de grotesque et de canaille dans l'horreur. La voix de Polichinelle quand la corde lui serre le cou. La bougie était allumée. Sur le plus haut bâton d'un perchoir de bois gris, lépreux de petites ordures blanches, un perroquet battait des ailes et se dandinait d'une patte à l'autre entre les 2 mangeoires. un vieux perroquet vert, presque sans plumes, dont l'affreux coupelet se dodeline, vire et s'érige, borgne d'ailleurs et de qui l'œil unique s'ouvrait tout rond, dur, fixe et troublant comme une menace augurale. « Tais-toi, vilaine bête !» dit la fille. « Il est à vous, ce perroquet ?»« Mais à peu près. Quand j'ai loué ici, je l'ai trouvé dans ce coin. C'est quelque femme qui l'aura laissé là. Je ne sais pas qui. Personne ne le sait. Oh, il paraît qu'il y a très longtemps qu'il est dans la baraque. Il doit avoir 60 ans au moins. » Eh bien, en voilà un qui en a entendu le propos pour sûr. Aussi, il répète un tas de mots très drôles. Quelquefois, c'est à crever de rire, je vous promets. Est-ce que vous voulez causer avec Jaco ?
Non, 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 merci.
Ils entrèrent dans la chambre pendant que le perroquet, se dandinant avec fureur, son hideux cou sans plume démesurément érigé, et son œil unique, plus écarquillé encore, râlait joyeusement. « Bonjour, monsieur, bonjour. Tu es venu, ha, ha, tu es venu, monsieur. Bonjour, monsieur, bonjour. » L'heure sonna. Il s'éveilla en sursaut. Où était-il ? Que s'était-il passé ? Il regarda autour de lui. Cette chambre au carrelement rouge, où des jupes quittées s'arrondissaient en tas et bouffaient, et où des gravures coloriées montraient de jeunes filles jouant avec des colombes, il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue, certainement. Oh, un rêve, sans doute. Une haleine rauque tout près de lui ronfla. Il bondit en retenant un cri d'horreur, et il se rappela. C'était immonde, et c'était vrai. Il était venu, ici, lui. Lui dont l'âme était toute ravie de rêve et le cœur tout extasié d'amour. Il s'était rué volontairement dans cette bestialité et dans cette crapule. Belle et exquise et si pure, et éternellement aimante. Elle attendait, la chère jeune femme. Et il l'avait laissée attendre pour poursuivre, oh, cette fille. Ses lèvres où florissait le souvenir d'un baiser de rose, il les avait salies à cette bouche qui sentait aigrie de vinaigre de buvier, l'absinthe et la laititarge. Monstrueuse, monstrueuse abjection des âmes que le démon spleen possède. Hébété, il se regardait dans la glace, aurait bien voulu ne pas se reconnaître. Mais c'était lui, c'était lui. Mais du moins, pas une minute de plus, pas une seconde, il ne resterait dans ce lieu abominable. Il jeta de l'argent sur le lit, pendant que la fille dormait toujours son gros sommeil de bête tranquille, et se précipita vers la porte et s'enfuit, ne fut plus là. Dans l'antichambre, il s'arrêta, stupide. Quelqu'un avait parlé. Sûrement, on avait parlé. Qui donc ? La fille, mais non, elle ronflait. Mais alors, qui donc ? Et qu'avait-on dit ? Il avait mal entendu. La voix reprit, une voix sinistre, qui avait l'air à la fois de râler et de rire. « Au revoir, monsieur, au revoir. Tu reviendras, tu reviendras, monsieur. Au revoir, monsieur, au revoir. » Il se souvint, s'élança dans le couloir, se bouchant les oreilles. Mais la stridente voix du perroquet le poursuivait implacable. « Tu reviendras, monsieur, tu reviendras. »